Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans « Et tu fais quoi dans la vie ?», l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui nous racontent leur métier. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je vous présente Boris.
Bonjour Flavie.
Hello Boris et merci de ta présence. Alors pour commencer simplement, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es s'il te plaît ?
Alors je m'appelle Boris, j'ai 35 ans, 1m69, en couple et papa d'un petit chat.
Hey. Et Boris, tu fais quoi dans la vie ?
Alors je suis vulgairement comptable, mon intitulé poste exact est chef de mission.
Chef de mission, donc chef de mission comptable.
Exactement, oui, on pourrait dire ça même si dans le secteur on ne dit pas trop, on dit juste chef de mission comme dans plein de secteurs je pense.
C'est vrai que comptable c'est un métier qu'on connaît souvent de loin. Concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire au quotidien et en quoi consiste ton métier ?
Alors déjà, il y a deux façons d'exercer la profession différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir sur de plus grosses entreprises un comptable salarié qui va faire la comptabilité de l'entreprise. Et il va y avoir des cabinets d'expertise comptable qui vont tenir la comptabilité notamment pour des plus petites entreprises qui n'ont pas les ressources pour embaucher quelqu'un. Le petit artisan du coin, par exemple, il a pas assez pour recruter quelqu'un à plein temps pour faire sa comptabilité. Il externalise la comptabilité, comme on le dit. On accompagne aussi des plus grosses sociétés qui ont notamment un comptable en interne pour faire le bilan ou d'autres choses derrière. Mais voilà, la distinction se fait vraiment à ce niveau-là. À mon sens, ce n'est pas du tout la même manière de voir les choses. Quand on est comptable en cabinet comptable, on a une cinquantaine, une soixantaine, une centaine de dossiers en fonction de la taille des dossiers. Alors qu'en entreprise, on est sur son entreprise, son groupe à faire la comptabilité du groupe.
C'est un poste qui est différent selon que tu l'exerces.
Oui, c'est totalement différent puisque quand tu es en cabinet comptable, bah, tu as le contact avec ton client, tu as tout l'accompagnement du client, plein de choses qui vont autour de la comptabilité, le conseiller au sens plus large du terme. Et puis tu as aussi un petit rôle quand même de commercial, de fidélisation de ton client. Ton travail est quand même d'accompagner les gens et de leur vendre de la comptabilité, quoi. Alors qu'en entreprise, tu as le statut d'un salarié qui fait la comptabilité de l'entreprise.
D'accord. Et si on revient un peu en arrière, on va expliquer un peu comment on en arrive là, c'est quoi ton parcours ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ?
Alors moi, j'ai un parcours assez atypique pour la profession et je suis tombé un petit peu là-dedans par hasard. Voilà. Je pense pas que l'école me correspondait vraiment. J'arrivais à avoir des 12 de moyenne sans faire grand-chose, mais ça me passionnait pas plus que ça. Et en fait, c'est à un moment donné, vraiment par hasard, ma mère était aide-comptable. Je lui dis, est-ce que c'est bien la comptabilité ? Elle me dit, il y a toujours du travail c'est que de la logique. Donc j'ai commencé à poursuivre des études là-dedans. Et en fait, dès que j'ai commencé l'alternance, ça m'a tout de suite... J'ai eu une espèce de déclic, j'ai adoré ça, quoi. Sans pouvoir vraiment l'expliquer, mais j'ai bien aimé ça.
C'est dans les gènes.
Peut-être, mon grand-père était comptable aussi, donc peut-être que c'est de...
Ah oui, quand même.
C'est une histoire familiale, je ne sais pas, mais voilà.
C'est vrai que souvent, quand on parle de comptabilité, on a une image un peu figée. Quel regard les gens portent sur ton métier en général et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent mieux sur ton travail ?
Bah, en fait, c'est vrai que les gens voient souvent le côté un petit peu clairement ennuyeux du métier. Mais en fait, moi je le vois pas du tout comme ça. Effectivement, il y a une partie de comptabilité à faire qu'il faut arriver à comprendre, à assimiler et intégrer. Mais surtout en cabinet d'expertise comptable, on est vraiment le contact privilégié du client. On l'accompagne, on le conseille. Et c'est vrai que généralement, le client de taille petite ou moyenne, il a un problème, il appelle son expert comptable qui va ensuite le rediriger. Bon, bah là, vous avez un souci patrimonial personnel, allez voir un notaire. Ou là, on peut vous aider parce que là, c'est dans nos compétences, parce qu'on propose aussi plein de missions autour. On fait un peu de juridique, on fait des payes, on fait de l'audit, on fait différentes choses. Donc quand nous, en interne, on peut l'accompagner ou faire des simulations, des choses comme ça, on l'accompagne. Mais on est un petit peu à 360 comme ça. On dit souvent dans la profession que l'expert comptable ou le comptable, puisqu'en fait l'expert comptable dans la déontologie s'appuie sur des équipes pour accompagner ses clients. Donc lui, il est plus sur des sujets un petit peu de au vol ou d'organisation, etc. C'est plus nous, au jour le jour, qui pratiquons vraiment la comptabilité et qu'avons le contact avec les clients. Et donc, du coup, on dit vraiment que l'expert comptable ou le comptable est le médecin de famille du chef d'entreprise. il a un problème, il vient le voir de la même manière que toi. Des fois, tu es un petit peu déprimé ou tu es en burn-out, bah, tu vas aller voir ton médecin, c'est lui qui va... Donc, alors qu'il n'est pas psy, quoi. Mmh. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il a un problème, voilà, des fois à tort, hein, quand on a un client qui s'appelle, oui, j'ai des problèmes avec la CAF, là, on lui dit, bah, désolé, mais je peux essayer de vous aiguiller un peu, mais ce n'est pas notre métier. Par contre, sinon, oui, quand il a un problème, il nous appelle et nous, on le redirige pour qu'il puisse trouver la solution à son problème.
Ok, donc un vrai rôle de conseiller.
Oui.
Donc finalement, il faut avoir un vrai sens de l'écoute.
Oui.
Et les autres compétences indispensables selon toi ?
Bah alors, effectivement, il faut de la rigueur. Ça, c'est certain, parce que la comptabilité, au début, faut quand même s'accrocher un petit peu quand on n'a jamais pratiqué. Arriver à avoir le déclic de comprendre vraiment ce que c'est. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment l'alternance, puisque ça permet de voir tout de suite le cas pratique. Pour moi, la comptabilité n'a pas de sens en théorie. Faut de la pratique. Pour moi, c'était totalement abstrait. Et en 6 mois d'alternance, j'ai tout de suite compris quel était l'objectif et l'intérêt derrière. Comme toujours, en fait, quand tu fais quelque chose, si tu fais quelque chose bêtement, bah, tu ne comprends pas. Et si tu vois l'objectif derrière, tu le comprends mieux. Donc déjà, effectivement, de la rigueur. Et je pense, en tout cas plus particulièrement pour le cabinet comptable, aussi du relationnel. Moi, je suis plutôt à l'aise avec les clients. Voilà, j'aime bien aussi ça. Je pense qu'il faut aimer aussi, en tout cas pour travailler en cabinet comptable, être dérangé toutes les 5 minutes par un client qui t'appelle, qui a une urgence, essayer d'être réactif. On ne met pas 48 heures à répondre à un mail ou quelqu'un vous appelle, vous répondez tout de suite, même si parfois c'est un petit peu fatigant. Mais voilà, donc je dirais principalement ces deux compétences-là. Être à l'aise avec les chiffres, oui, effectivement, ça peut aider, mais ça s'apprend. Ce n'est pas des calculs compliqués, la comptabilité. Multiplication,
ah bon,
addition, soustraction, division. Dans 95% des cas, ce ne sera que des calculs comme ça et c'est de la logique binaire. Il faut juste bien comprendre le principe de la comptabilité. Si on reprend à la base, la définition de la comptabilité, c'est la traduction de la réalité en flux économique. Donc en fait, il faut toujours se poser une question quand on fait quelque chose, bah, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Et d'ailleurs, l'exemple que je prends souvent, si j'achète un ordinateur, bah, en fonction de mon activité, la facture d'achat, alors que c'est quand même quelque chose de basique, hein, et ben, elle va forcément se traiter différemment. Si par exemple, je suis une société qui travaille dans l'informatique, bah, peut-être que c'est pour de l'achat-revente. Je vais acheter du matériel que je veux revendre. Si je suis une société de communication, certainement c'est un investissement, c'est un équipement informatique que je vais garder pour exercer mon activité. Donc voilà, en te disant tout ça, je prends conscience qu'effectivement, il faut aussi savoir prendre un petit peu de recul, justement, même pour des opérations assez basiques, ce qu'on appelle la saisie comptable, hein, donc saisir des opérations comptables qui viennent alimenter la comptabilité, même si ça a partie tendance à disparaître avec les évolutions qui arrivent là, et qui a même déjà bien disparu.
Avec l'IA, tu veux dire ?
Oui, l'IA, oui, effectivement. Pas que, bon, déjà, il y a eu 2 révolutions dans le métier. Bon, il y a une époque où ils faisaient ça papier. Donc là, par contre, moi, clairement, pour moi, ces gens-là étaient des fous furieux. Ensuite, il y a eu l'arrivée de l'informatique. Et donc, ça a beaucoup simplifié 2 choses. En fait, la comptabilité, moi, je le vois comme ça, c'est que pour moi, c'est une base de données très particulière, normée, mais quand même une base de données. Donc pour l'alimenter, effectivement, l'informatique nous aide beaucoup plus. Et ensuite, pour la ressortir, on peut sélectionner quelque chose dans une base de données pour faire ressortir que ça. Et c'est ce qu'on cherche assez souvent en comptabilité pour aller consulter un certain nombre d'éléments. Donc l'informatique nous a aidé énormément là-dedans, à simplifier cette partie-là. L'intelligence artificielle va venir aussi pouvoir, mais toujours sous réserve de validation par un humain, prêt à imputer certaines choses. Typiquement le cas de l'ordinateur, une IA, elle pourra peut-être à terme le faire, mais pour l'instant, que je le mets en actif, est-ce que je le mets en achat-revente ? En tout cas, les outils n'existent pas encore, même si nous, là, depuis un an ou deux, on est sur un outil qui est le meilleur du marché, qui est vraiment top, mais on n'arrive pas encore, et voilà. Nous, dans la profession, ce qui nous concerne le plus, c'est la réforme de la facturation électronique qui arrive prochainement, et là, par contre, couplé avec l'IA, effectivement, ça va changer énormément de choses.
On comprend du coup que derrière les bilans, les chiffres, il y a aussi des histoires, de la rigueur et surtout beaucoup de sens du contact. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote où tu as vraiment senti que tu avais de l'impact pour ton client ou pour ton équipe ?
Bah alors, il y en a 10 000, je pense, clairement. Si je prends l'exemple le plus récent que j'ai, qui est tout simple, j'avais une petite commerçante, restauratrice. Je fais son bilan. Bon, elle n'est pas très, très administratif, donc tant bien que mal, à la limite de la date légale pour déposer les éléments. Et donc, je lui présente quelques semaines après. Et donc, je lui dis, là, tu as un gros problème de marge. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai dans les comptes, la marge n'est vraiment pas bonne. Donc, sachant qu'elle, elle ne se payait pas ou très peu. Mais quand je dis très peu, c'est moins de 1 000 euros par mois. Donc, pour vivre, c'est compliqué. Et donc, du coup, il y a 2 solutions dans un cas-là. Soit mon bilan est faux, ce qui est la meilleure solution, parce que vaut mieux qu'un bilan soit faux plutôt que la marge réelle soit aussi mauvaise. Et il y a un problème dans ton activité. Donc, elle m'a dit qu'avec son cuisinier, elle avait tout mis en place pour pas mettre trop de quantité, elle avait bien calculé ses prix, tout ça, etc. Donc on séchait un petit peu. Et là, il y a, je pense que c'était il y a une semaine ou deux, elle me rappelle et elle me dit qu'elle avait compris pourquoi. Et en fait, elle s'est rendue compte que son fournisseur principal de boissons, en fait, pour les fûts, alors là, c'est un peu technique, enfin, on les achète et on les revend. C'est un système de consignes, en fait. Et donc, en fait, qu'elle avait énormément de consignes qui n'avaient pas été rendues.
Okay.
Et aussi quelques prix négociés qui n'avaient pas été bien mis. Donc, elle a repris toutes ses factures et elle s'est fait une pile. Voilà. Et elle a tout repointé. Et elle s'est rendue compte qu'il y en avait énormément à qui manquait. Donc, elle a pris rendez-vous avec le fournisseur, etc. Mais il y en avait pour 20 000 euros sur l'année. Elle, elle fait 200 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. C'est quand même très significatif. Et donc, du coup, c'est pour ça que faire de la comptabilité, je dis toujours, c'est bien, mais c'est un petit peu la base. Il y a ce qui va après. Le comptable qui envoie le bilan comme ça, ou le client qui s'en... parce que parfois c'est le client qui s'intéresse pas. Non, je veux pas de rendez-vous pour vous me le présentiez. Même si je lui mets dans un mail, il y a le taux de marge qui est pas bon, le client il va pas le voir. Alors que là on s'est vu, il y avait pas énormément de choses à dire sur son bilan, mais il y avait un gros point noir, c'était celui-là. Et au final elle l'a traité, et maintenant, bon, le passé est le passé, elle va voir comment le passé s'arrange avec son fournisseur. Mais en tout cas pour l'avenir, maintenant elle fait tout simplement un processus que font beaucoup de grandes entreprises, mais très peu de petites, c'est de dire, est-ce que déjà je pointe ce que j'ai réceptionné avec les bons de livraison et les bons de commande, et est-ce que quand je reçois la facture, j'ai bien les mêmes informations, qu'on ne facture pas quelque chose. Bien souvent, c'est juste simplement une erreur informatique, hein, là, souvent, ça peut arriver. Et là, j'ai senti que j'ai eu réellement un impact pour quelque chose de quand même assez simple. Bah, il fallait prendre le temps de la rencontrer, déjà de se poser un petit peu avec le bilan une fois qu'on l'a terminé pour dire, bon, bah, qu'est-ce qui cloche dans ce bilan, et puis lui en parler, et puis après évidemment, qu'elle s'en préoccupe, parce que si elle s'en préoccupe pas. Mais là, en l'occurrence, ça me préoccupait et j'ai senti un vrai impact. Et des cas comme ça, il y en a énormément.
Donc, vous ne sauvez pas des vies, mais les santé financières
oui.
des gens. Non, et mais c'est vrai que c'est important.
Ben oui, parce qu'elle, typiquement, elle a une période difficile. Du coup, elle a enlevé son cuisinier. Donc, elle était toute seule. Elle était à la fois en cuisine. Alors, c'est vrai qu'elle ne faisait pas de la grande restauration. C'était du snacking. Donc, elle se débrouillait. Mais mine de rien, il y avait quand même un emploi derrière. Parce qu'avant, ce n'était pas moi qui avait le... On l'a récupéré l'année dernière, le dossier. Donc, c'est le premier bilan que je faisais avec elle. Si j'avais eu le dossier avant, peut-être elle aurait gardé son cuisinier et que ça aurait préservé un emploi. Bon, dans le monde de la cuisine, généralement, c'est plus les employeurs qui ont du mal à recruter que les salariés. Donc, je pense qu'il a vite retrouvé du travail. Mais il y avait quand même un emploi derrière. Mais effectivement, on ne sauve pas des vies. C'est ce qu'on se dit souvent quand on travaille. Voilà, on ne sauve pas des vies, il ne faut pas non plus se stresser. Voilà, mais bon, il faut quand même être
vigilant,
rigoureux et vigilant.
Vous intervenez sur d'autres sphères, la sphère financière qui est tout aussi importante à différentes échelles.
Bah oui, on va pouvoir le conseiller pour aller voir le banquier, avoir un financement. Mmh. Qu'est-ce que va dire le banquier quand il va voir les comptes? On peut tout de suite lui dire, bah voilà, elle, par exemple, avec sa marge, si elle voulait emprunter, il aurait dit, non, votre activité, elle n'est pas bonne, quoi. Il y a le social, il y a toutes les payes, le juridique en droit social, donc les contrats, les ruptures conventionnelles, toutes ces choses-là. Il y a le droit des sociétés. On doit approuver les comptes une fois par an, puis il peut y avoir des opérations un petit peu exceptionnelles. Il y a ce qu'on appelle le commissariat aux comptes pour les plus grosses entreprises. Voilà. Donc il y a toute une série de choses qui vont autour. Et nous, on essaye même d'aller plus loin. On essaye de faire de la RSE, parce que ça commence à devenir obligatoire, et petit à petit, sur des entreprises de plus en plus petites, de faire un bilan carbone déjà, même si la RSE, c'est pas que l'écologie, je le rappelle, il y a aussi d'autres choses. Voilà, on fait la gestion de patrimoine, on essaye d'ouvrir vraiment plein de services pour que le client puisse avoir... tout ce dont il a besoin au cabinet.
Oui, c'est ça, c'est la notion de service qui ressort, je trouve.
Oui, souvent les gens, on se voit comme une profession libérale, mais en fait, on est une société de service. Effectivement, on est une profession libérale, réglementée, heureusement, parce qu'il ne faut pas que n'importe qui puisse faire des comptes, sinon les fiabilités financières, les informations financières seraient, voilà, outre le souci de recettes fiscales qui nous sert à payer les hôpitaux, les écoles, etc. Effectivement, il faut que tout ça soit bien cadré, et voilà.
C'est très bien.
De plus.
Tout de suite, c'est le moment musique de l'émission et c'est Boris qui a choisi le titre. On l'écoute et on revient juste après pour reprendre notre discussion.
Never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. And I'm tore down, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Sight. I like for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. When I'm caught out, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. I'm caught out. Hold on.
Calade. Et tu fais quoi dans la vie? De retour dans Et tu fais quoi dans la vie, toujours avec Boris qui nous fait découvrir donc son quotidien de chef de mission en comptabilité. On a tous déjà entendu parler de la fameuse saison des bilans ou saison fiscale, une période où tout s'accélère dans les cabinets comptables. C'est vrai que c'est un métier donc exigeant avec des périodes très intenses. Est-ce qu'on arrive à trouver un bon équilibre vie pro-perso dans ce travail?
Baf, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Il y a le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que déjà, comme je disais au début, il y a deux distinctions. Il y a le monde de l'entreprise et le monde du cabinet comptable. C'est sûr qu'en entreprise, c'est quand même beaucoup plus light en termes de charge de travail et d'intensité. En cabinet comptable, c'est un peu plus intense. On apprend plus en revanche. Il y a beaucoup de comptables qui font du cabinet après qui partent en entreprise. Même si moi, je ne pourrais pas, je pense que je m'ennuierais trop en entreprise. C'est vrai qu'il y a quand même, tu fais bien de parler de saisonnalité, parce qu'il y a une majorité des entreprises qui clôturent en fin d'année civile, donc qui ont l'exercice social sur l'année civile. Et donc du coup, en plus, on a un peu plus de temps parce qu'on en a beaucoup, jusqu'à peu près mi-mai, on a cette période-là pour faire les bilans. Moi, par exemple, sur une centaine de bilans, j'en ai une soixantaine, une soixante-dizaine au 31 décembre. Donc c'est vrai que c'est intense, le reste de l'année, c'est pas qu'on ne fait rien, on a des exercices décalés, on a plein d'autres choses à faire, mais c'était la période un petit peu haute. Historiquement, l'expert comptable à l'ancienne, lui et ses salariés, trimaient pendant la période fiscale, avec des heures sup non rémunérées, généralement, ils mettaient quand même une prime en fin d'année, Maintenant, il y a de plus en plus d'experts comptables qui sont jeunes. Enfin, quand je dis jeunes, c'est 30, 35 ans. Et ça, c'est en train de changer de petit à petit. Il y en a de plus en plus qui commencent à rémunérer les heures supplémentaires ou à les faire rattraper avec des systèmes de RTT, qui se débrouillent aussi pour avoir des plans de charges plus étalés dans l'année. Il y a des experts comptables, des cabinets qui font le choix de dire « je vais inciter mes clients à faire des clôtures décalées » pour pas avoir en avoir autant toute l'année et que ça soit à peu près stable dans l'année, parce que eux-mêmes ont mal vécu ça à une époque, je pense. Et puis ça va dépendre aussi du poste auquel tu es. Moi, par exemple, je suis chef de mission, donc toute la partie, ce qu'on appelle la tenue, la saisie comptable, j'ai deux personnes qui m'assistent là-dessus, deux collaborateurs, et moi je vais faire les bilans, je vais conseiller les clients, donc forcément je suis un petit peu le cadre, en fait, le manager. Donc c'est sûr que je vais faire plus d'heures que eux. Déjà, je vais être incité par les demandes que je peux avoir, parce que je suis plus sollicité. C'est moi qui suis responsable de la bonne tenue des échéances fiscales. Donc j'ai aussi un salaire plus haut, donc c'est aussi plus... Enfin, c'est normal, moi, dans ma vision des choses, qu'on s'implique plus. Mais tout ça est en train de changer petit à petit. Et puis, on a aussi des systèmes, quand ça fonctionne bien de manière un petit peu officieuse, Bon, là, aujourd'hui, je suis là sur mon temps de travail. Ma patronne m'a dit, OK, pas de souci. Parce qu'elle sait que pendant la période fiscale, voilà, j'ai eu...
Ça se compense.
Voilà, j'ai eu des périodes un petit peu plus compliquées dans ma vie, avec des choses à gérer que je devais m'absenter. Quand je voulais poser des jours de congé, elle me disait, bah non, tes heures sont pré-rattrapées. Donc voilà, c'est un petit peu... à l'ancienne, c'était un petit peu, oui, pendant 4 mois, on voyait pas le jour. Mais maintenant, ça change de plus en plus avec, je dirais, la jeunification de la profession qui aussi a vécu ça et qui ne veut pas... voilà, c'est en train de changer.
Et malgré ces périodes de rush total, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ton travail?
Bah alors moi, j'ai quand même deux choses principales qui m'animent quand je fais ce métier. Bon, faire de la compta, j'aime bien ça forcément puisque je suis comptable, mais c'est pas ce qui m'anime le plus. Moi, c'est vraiment accompagner les clients. Donc, leur expliquer déjà leur bilan, quand ils ont une question, les aider. Et puis ensuite, les accompagner sur des problématiques précises. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui me... J'ai vraiment l'impression d'être utile. Et l'autre point que j'aime bien, c'est toujours dans l'humain, c'est former et accompagner les collaborateurs plus juniors. On essaye de, s'ils ont envie, à leur rythme, de commencer à faire un petit peu des bilans, des choses un petit peu compliquées. Et là, je prends vraiment le temps de leur expliquer, de leur faire un retour après avoir regardé, parce que si on fait jamais de retour, la personne ne sait jamais. Voilà, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un en entretien, il m'a dit pendant 2 ans, j'ai fait des TVA, c'était l'expert comptable qui les validait, j'ai jamais eu un seul retour. Pour moi, c'est pas normal. Voilà, puis nous aussi, c'est aussi un petit peu égoïste. Hein. Si j'ai des collaborateurs, pendant 2 ans, je les ai formés, à la fin, ils m'avançaient le travail plus que ce que je faisais qu'avant, quoi. J'avais moins de choses à faire, moi, in fine. Et puis lui, il monte en compétences et dans le temps, il peut, en interne ou en externe, accéder à un nouveau poste. Donc moi, c'est vraiment ces deux parties-là qui m'animent le plus.
C'est vrai qu'on imagine un quotidien plein d'Excel, de tableurs. Et quels sont les outils ou les logiciels dont tu pourrais pas te passer?
Bah, Excel, effectivement, on l'utilise, mais pas autant qu'on pourrait le penser. On va l'utiliser pour faire des calculs ou vraiment quand on a un tableau à faire, voilà. Mais sinon, effectivement, notre outil principal, c'est le logiciel comptable, qui là, par contre, doit être le bon logiciel comptable qui fonctionne bien et qui ne nous fait pas perdre du temps. C'est en train de changer de plus en plus, comme je disais tout à l'heure. Avant, on saisissait à la main. Ensuite, on est passé par la phase où on avait ce qu'on appelait des OCR, donc des logiciels qui vont faire de la reconnaissance sur les factures au maximum, avec des OCR de plus en plus précis, avec de l'intelligence artificielle qui arrive. Et puis maintenant, il y a la facturation électronique qui va arriver. La facture légale, ce sera carrément un fichier XML normé. Donc on n'aura même plus besoin d'OCR. On pourra directement dire à l'ordinateur, tu vas me chercher dans telle cellule, tel champ, tu me le mets là. Donc là, on va pouvoir faire en temps réel et plus précis. On va vraiment pouvoir faire de l'orfèvrerie là. Être très très précis et automatisé au maximum.
D'accord. C'est vrai que dans ton univers, on voit là qu'il y a un langage à part entière, du jargon comptable. Est-ce qu'il y a des mots ou expressions qu'on entend souvent dans ton quotidien?
Ah bah alors, il y en a énormément. Il y a déjà tout le vocabulaire financier, bilan, compte des résultats, solde intermédiaire de gestion, SIG. voilà, tous les termes d'analyse du bilan au sens large, plutôt des comptes annuels, l'excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, tous ces termes-là. Après, il y a les termes un petit peu plus basiques, enregistrer une écriture, voilà, ces termes-là. Et puis après, il y a des termes qu'on a qui peuvent être utilisés dans d'autres métiers comme RAS, rien à signaler, quand on se vise un compte, voilà. En fait, il y en a tellement que je pense pas que je peux t'en citer, tous te les citer ou t'en citer un qui ressort plus que les autres. Oui, le mot le plus commun, c'est bilan ou TVA. C'est sûr qu'au jour le jour, TVA, on l'entend beaucoup.
Qu'est-ce qui surprend le plus les gens quand tu expliques ton métier?
Bah, des retours qu'on m'a fait, c'est déjà on a l'impression que je suis passionné par ça. Et effectivement, ça surprend. Mais moi, je sais pas, j'aime bien ça. Ça me toute cette partie-là, j'apprécie vraiment. Après, voilà, quand je parle du métier, effectivement, ce qui les surprend le plus aussi, c'est quand je leur dis que parfois, en une journée, j'écris plus de mots que je tape de chiffres. Parfois, on tape un mail de 20 lignes avec 4 chiffres dedans. Parce qu'un chiffre tout seul, c'est bien, mais faut lui mettre du contexte et le mettre en lumière, quoi.
On sent que tu aimes ton métier et c'est vrai qu'on arrive à la fin. On va tenter de faire une petite synthèse façon bilan. Si tu devais résumer ton métier en un seul mot ou par un mantra, tu choisirais quoi?
Clairement, accompagnement pour moi. Accompagnement, voilà, parce que c'est vraiment le cœur du métier. Les bilans, on les fait, c'est effectivement le socle de notre métier. Il faut les faire pour les communiquer à l'administration fiscale, les analyser, etc. Mais faire juste un bilan n'a aucun sens. Il faut ensuite le regarder, l'analyser et voir si on a des problèmes ou des opportunités aussi dans les comptes et sur tout ce qui se passe au quotidien, évidemment aussi.
Merci beaucoup Boris pour ton temps et pour cette immersion dans ton univers. On retient en effet que derrière les chiffres, il y a surtout de la passion, du lien humain et un vrai sens du service. C'était Tu fais quoi dans la vie ? On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait métier. Merci Boris.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.